Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Loin d'être lassé par ses années de leadership à la tête du Likoud, les adhérents de la droite israélienne en redemandent encore avec 45 points d'avance sur son principal rival Benjamin Netanyahou, a remporté hier de manière éclatante la primaire de son parti, un véritable plébiscite.
Quand le chantier du siècle, la construction du gazoduc sous-marin le plus long du monde, se retrouve menacé par un imbroglio géopolitique.
Oui, un sous-traitant vient de suspendre les travaux de crainte d'encourir les sanctions des États-Unis, bien déterminés à faire échouer ce chantier censé donc permettre à Moscou de fournir l'Europe en gaz. En Inde, en amont de la grande prière hebdomadaire, des milliers de policiers armés patrouillaient ce matin dans l'état d'Uttar Pradesh, à majorité musulmane. Là-bas, 5000 personnes ont déjà été placées en détention préventive suite aux manifestations parfois violentes contre la nouvelle loi controversée contre la citoyenneté.
Toujours dans votre journal à Lyon, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Bruno Bernard, talonne désormais Gérard Collomb, investi par La République En Marche.
Oui, c'est ce qui ressort des dernières intentions de vote au premier tour des élections métropolitaines, concomitantes donc des municipales en mars prochain. Enfin, plus de 80 milliards d'euros, c'est le montant estimé des destructions causées cette année par au moins 15 catastrophes naturelles liées au changement climatique. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Maxime Combe, économiste et membre de l'association Attaque. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On l'associe souvent à la lenteur et au silence. On a appris hier la mort de cette figure du théâtre français à 96 ans. C'est Claude Régis qui nous a quittés. Claude Régis qui avait un rapport très particulier au temps, à l'espace, à la vitesse. Nous en reparlerons avec nos invités de sa vie, de son œuvre surtout. Leslie Kaplan et Arnaud Rickner seront avec nous en studio et par téléphone le chorégraphe Jérôme Bell ou encore la comédienne Valérie Dréville.
Merci et à tout à l'heure. À tous ceux qui auraient pu penser que son inculpation pour corruption, abus de confiance et fraude l'avait définitivement lesté d'un sérieux boulet, l'intouchable Benjamin Netanyahou leur aura donc apporté hier un sérieux démenti. Avec 72,5% des suffrages, le Premier ministre israélien a largement remporté la primaire de son parti, loin, très loin devant son principal rival Gideon Saar, lequel n'aura recueilli que 27,5% des voix au camp, ni sa triple mise en examen, pas plus que son double échec à former un gouvernement, ni même la tentation du changement n'auront convaincu les adhérents de la droite israélienne de remercier l'homme à la tête de leur parti depuis 1993, hormis les 6 années où le Likoud était dirigé par Ariel Sharon. Quoi qu'il en soit, et un peu plus de 2 mois maintenant des nouvelles élections législatives, les 3e en l'espace d'un an, c'est donc à lui, Benjamin Netanyahou, que reviendra de nouveau la tâche de mener la campagne pour son parti. Léa Berdugo, bonjour.
Oui, bonjour, même si...
Vous êtes en direct de Jérusalem. Comment faut-il comprendre, Léa, donc cette victoire en tout point écrasante?
Oui, alors même si on est bien loin des 85% de la primaire de 2014, Benjamin Netanyahou l'emporte largement tout au long de la campagne. Il n'a lâché ni les réseaux sociaux, ni le terrain. Il a ravivé sa base électorale. Une base pas du tout effrayée par les mises en examen. Bien au contraire, nous dit Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, soutien de Gideon Saar.
Plus de 2/3 des membres du Likoud ont voté pour lui, entre autres du fait de sa mise en examen. Autrement dit, ces mises en examen, elles sont perçues par ses soutiens les plus inconditionnels, comme ce que Netanyahou lui-même a décrit comme un coup d'État contre lui. De leur point de vue, ces mises en examen sont une raison de plus et pas de moins pour voter pour lui.
Une rhétorique populiste et anti-institutionnelle qui fonctionne donc auprès de sa base dans le parti, mais moins au niveau du pays, car Benjamin Netanyahou a échoué à 2 reprises à former une coalition. L'enjeu est aujourd'hui immense pour le Premier ministre israélien, élargir son électorat pour gagner les élections et ensuite pour former un bloc de droite pour gouverner.
Merci Léa Berdugo en direct de Jérusalem. Et puis il faut également préciser que cette victoire représente évidemment une étape cruciale pour le Premier ministre, en ce sens qu'elle devrait l'enhardir un peu plus encore dans sa croisade contre son inculpation. Entre 2 tweets rageurs sur le processus de destitution lancé contre lui, Donald Trump s'est ému hier du sort des civils dans la province d'Idlib, exhortant Bachar el-Assad et ses alliés à la fois russes et iraniens à éviter un carnage dans la province syrienne rebelle. Et de fait, l'intensification des frappes ces dernières semaines par le régime de Damas, en dépit d'un cessez-le-feu annoncé l'été dernier, ont semble-t-il d'ores et déjà tué des dizaines de civils et déplacé des dizaines de milliers de personnes, dont la plupart d'ailleurs auraient trouvé refuge en Turquie. Alors cet avertissement lancé aux alliés du gouvernement syrien ne constitue pas en soi véritablement une surprise. La semaine dernière déjà, lorsque la Russie notamment avait mis son veto pour l'allongement d'un an de l'aide humanitaire transfrontalière distribuée aux Syriens, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait fustigé une décision honteuse qui laisse du sang sur les mains de la Russie. Reste à savoir si au-delà de la simple admonestation, les États-Unis auront les moyens d'exercer la moindre pression sur le régime de Damas et ses alliés. Il est un autre dossier en revanche sur lequel l'administration américaine a réussi à sortir l'artillerie lourde. La construction du gazoduc Nord Stream 2 qui doit permettre à Moscou de fournir l'Europe en évitant de passer par l'Ukraine, ex-allié de la Russie devenue la bête noire du Kremlin. Il y a quelques jours, de crainte d'encourir des sanctions des États-Unis, la société fribourgeoise Allseas, spécialisée dans la pose de canalisation sous-marine, a tout simplement abandonné son client Gazprom en quittant la zone des travaux en mer Baltique. En clair, l'armateur a déserté le chantier. Claude Brouillot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Alors aujourd'hui, la Russie minimise l'impact des sanctions américaines et assure que l'achèvement de la construction de ce gazoduc sous-marin le plus long du monde est une affaire de quelques mois. Mais en a-t-elle, Claude, les moyens aussi bien financiers que techniques ?
Oui, à l'annonce des sanctions américaines la semaine dernière, le Kremlin a tout de suite relativisé les conséquences des décisions de la Maison-Blanche. Il n'y aura pour le Kremlin de toutes les façons aucune conséquence en ce qui concerne les livraisons en 2020 de gaz russe vers l'Europe, puisque la Russie a conclu un accord avec l'Ukraine pour pérenniser le transit de ces livraisons terrestres encore pendant 5 années. Pour ce qui est de l'achèvement maintenant de la construction de Nord Stream 2, il reste officiellement 160 kilomètres de tubes à poser selon les Russes. C'est Dmitri Medvedev, le Premier ministre en personne, qui est monté au créneau en assurant que Gazprom avait déjà les solutions palliatives au retrait du constructeur Allseas. Le numéro 2 russe n'a pas précisé quelles étaient ces nouvelles options dans le détail, car il reste en suspens la question juridique du statut de ce constructeur remplaçant, en capacité donc de poser les tuyaux manquants. Un obstacle de plus en tous les cas pour le Kremlin, qui a fini par admettre que le chantier ne serait pas terminé avant la fin du deuxième semestre de 2020, mais qu'en retour, des sanctions seraient prises contre les États-Unis.
Merci Claude Brouillot à Moscou. 2 jours après les funérailles du puissant Ahmed Gaïd Salah, lequel s'était affiché ces derniers mois comme le véritable maître du pays, l'Algérie s'apprête à vivre aujourd'hui son 45e jour de manifestation hebdomadaire contre le régime. Et quand bien même dans son oraison funèbre, mercredi dernier, le directeur de la communication du ministère de la Défense aura salué dans le général un héros parmi les héros, eh bien il y a peu de chances pour que sa mémoire soit encore saluée ce vendredi, tant son nom était généralement conspué dans les dernières manifestation, tant pour la répression d'ailleurs contre le mouvement de contestation que pour son acharnement à organiser cette présidentielle vue par les opposants comme un artifice permettant la survie du système. Ou quant aux funérailles de mercredi, digne d'un chef d'État, devrait surtout répondre aujourd'hui le désir de célébrer enfin les obsèques de l'ancien régime. En élisant dimanche prochain leur nouveau président, les Bissau-Guinéens devraient encore clore une année 2019 là aussi tumultueuse sur le plan politique. Le scrutin mettra aux prises le chef du principal parti et celui d'une formation dissidente, lequel a réussi à rassembler les déçus du premier tour. Voilà 2 semaines maintenant que la capitale vibre au son de bruyants cortèges décorés à l'effigie des 2 finalistes, mais aussi par les bruits de bottes de la force régionale de la CDAO. L'occasion de rappeler que l'ancienne colonie portugaise a connu depuis son indépendance, c'était en 1974, pas moins de 4 coups d'État et quelques 16 tentatives de putsch. Direction à présent la Centrafrique, où là-bas de nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants ont coûté la vie à au moins 30 personnes. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors il faut préciser que tous ces affrontements ont lieu dans un quartier de Bangui, le PK5, un quartier majoritairement musulman est devenu l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine depuis 2014. Pour quelle raison, Bertrand ?
Eh bien parce que la population, effectivement à majorité musulmane de ce quartier commerçant PK5, le point kilométrique 5, est accusée d'avoir été un soutien actif de la Seleka, la coalition ethnique et islamique constituée à partir de 2012 pour faire tomber le président de l'époque, François Bozizé. Le PK5 a longtemps été le cœur économique de la capitale centrafricaine, où transitaient les marchandises en provenance du Cameroun, pays limitrophe. C'est toujours en partie le cas, mais ce grand marché populaire où l'on trouve de tout a beaucoup perdu en raison de la présence de miliciens qui rackettent les commerçants et les clients et de groupes d'autodéfense, des entités qui s'affrontent régulièrement. Les milices font régner leur loi depuis 2013 dans ce quartier devenu l'un des plus dangereux de Bangui. Les autorités centrafricaines ou ce qu'il en reste n'ont jamais réussi à reprendre le contrôle du secteur, pas plus que la mission des Nations Unies en Centrafrique dépassée par les événements. La MINUSCA avait fait l'an dernier une intrusion pour tenter d'interpeller un chef de milice, opération qui s'était soldée par un échec sanglant, déjà une trentaine de morts et une centaine de blessés. Il y a quelques mois pourtant, un semblant de calme était revenu, des taxis circulaient à nouveau au PK5, les marchandises étaient de retour sur les étals des commerçants, mais la population musulmane redoutait toujours d'aller en ville par crainte d'être agressée. Cette trêve, on le voit, n'a pas duré, les affrontements entre commerçants et racketteurs ont repris à coups de rafales de Kalachnikov et de grenades. La nouvelle flambée de violences religieuses, mafieuses et communautaires intervient une semaine après le retour triomphal à Bangui de l'ancien président centrafricain François Bozizé, celui-là même qui avait dû s'exiler en 2013 à la suite de l'offensive des rebelles de la Séléka.
Merci Bertrand Galichet. 14 militaires ont été tués hier dans une attaque terroriste dans la région de Tillaberi, dans l'ouest du Niger. C'est dans cette même région proche du Mali que 71 soldats nigériens avaient été tués le 10 décembre dernier dans la pire attaque jamais enregistrée dans le pays depuis le regain de violence djihadiste. Enfin, rappelons qu'hier, le Burkina Faso observait lui son deuxième jour de deuil national après l'attaque qui a fait 42 morts en début de semaine. La pire, là aussi, depuis 5 ans, que toute cette région du Sahel est désormais visée par les assauts de groupes islamistes, et ce en dépit donc du renforcement des armées locales et de la présence de quelques 4500 militaires français de la force antiterroriste Barkhane. La répression se durcit dans le nord de l'Inde à l'encontre des manifestants qui s'opposent toujours à la nouvelle loi controversée contre la citoyenneté dénoncée comme discriminatoire envers les musulmans. La police a notamment été déployée en masse dans l'état d'Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays. Là-bas, plus de 5000 personnes ont d'ores et déjà été placées en détention préventive. 27 manifestants ont par ailleurs trouvé la mort au cours des deux dernières semaines. Enfin, anticipant de nouvelles manifestations aujourd'hui, les autorités ont décidé de couper tout simplement l'accès à l'Internet. C'est une correspondance signée Antoine Guinard.
L'Uttar Pradesh s'est transformé en un véritable état policier selon les opposants à la loi sur la citoyenneté. Alors que de nouvelles manifestations sont prévues ce vendredi, des milliers de paramilitaires ont été déployés à travers l'État, théâtre de violents affrontements ces 10 derniers jours. Les autorités d'Uttar Pradesh, dirigées par le parti nationaliste hindou au pouvoir en Inde, ont également confisqué les biens de 370 personnes accusées d'être impliquées dans des actes de vandalisme pendant les manifestations. Le gouvernement régional craint de nouvelles violences après les prières du vendredi. L'Uttar Pradesh compte en effet une importante communauté musulmane, laquelle se sent directement visée par cette nouvelle loi sur la citoyenneté. Les musulmans de l'État ont fait état de tirs meurtriers à balles réelles par la police, de tortures en détention et de descentes musclées ces derniers jours. Des manifestations sont également prévues dans la journée à New Delhi, où la police a interdit les rassemblements de plus de 4 personnes et renforcé la sécurité dans plusieurs quartiers de la capitale.
Hong Kong a connu aujourd'hui son troisième jour consécutif d'affrontements entre la police et les manifestants dans plusieurs centres commerciaux de la mégapole, des temples de la consommation particulièrement fréquentés en cette période de fête, une manière pour les contestataires pro-démocratie de perturber l'économie et ainsi espérer faire pression sur Pékin, le pouvoir exécutif local qui leur refuse toujours toute concession. Les gardes-côtes et gardes-frontières britanniques ont porté secours hier à 49 migrants qui tentaient de franchir la Manche à bord de petites embarcations. Début décembre, 148 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient déjà été interceptées. Et puis dans la même journée d'hier, les autorités françaises ont, elles, secouru un groupe de 14 migrants en difficulté au large de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Le conflit social sur la réforme des retraites est entré hier dans sa quatrième semaine avec des transports toujours très perturbés par les grèves, avec 6 TGV sur 10 et 7 Ouigo sur 10. La SNCF prévoit par ailleurs un Transilien sur 5, 4 TER sur 10 et un Intercité sur 3. Alors en ce 23e jour de mobilisation, la grève a désormais dépassé dans la longueur celle de 1995 et aucune porte de sortie n'est encore visible. Une nouvelle journée d'action est prévue demain. De son côté, le collectif SOS Retraite, qui regroupe des professions libérales disposant de régimes autonomes, notamment des infirmiers libéraux ou des kinés, appellent également à la grève le 3 janvier. En revanche, 4 syndicats d'hôtesses et stewards ont eux suspendu leur appel après avoir obtenu des garanties de l'exécutif. Le syndicat des pilotes pourrait faire de même. Enfin, autre prochain temps fort, ce sera le 9 janvier avec une nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles. Puis, en plein conflit social donc sur les retraites, Emmanuel Macron a préféré hier jouer la prudence en reportant la réforme des aides personnalisées au logement officiellement pour des raisons techniques du 1er janvier donc au 1er avril, soit après les élections municipales. S'agissant justement de ces municipales, un récent sondage à Lyon révèle que la liste écologiste talonne désormais de près le maire sortant Gérard Collomb. Une enquête qui non seulement confirme donc la dynamique verte des dernières élections européennes, mais a tendance de plus en plus à colorer également la campagne à venir des prochaines élections locales. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Lyon n'est pas en effet la seule ville concernée, puisqu'on pourrait également citer Stéphane, Besançon, Bordeaux, mais aussi Montpellier.
Oui, à Lyon, c'est une enquête OpinionWay, publiée hier, qui met en valeur une forte poussée des écologistes. Bruno Bernard, candidat Europe Écologie Les Verts pour la métropole, est crédité de 25% des intentions de vote, juste derrière Gérard Collomb à 27%. L'ancien ministre de l'Intérieur, qui est en perte de vitesse, il était à 30% en octobre, tandis que l'écologiste progresse, il était aux alentours de 20% il y a 2 mois. On peut donc parler d'une dynamique en faveur des écologistes qui s'inscrit dans la continuité des très bons scores qu'ils ont obtenus dans les grandes villes aux élections européennes. Et vous le disiez, il n'y a pas qu'à Lyon qu'on constate ce phénomène. C'est également le cas à Bordeaux. Le maire qui a succédé à Alain Juppé il y a quelques mois, Nicolas Florian, est en tête des intentions de vote à 33%. Mais l'écologiste Pierre Urmic le talonne à 30%. Même chose à Montpellier où l'écologiste Clotilde Ollier talonne le sortant Philippe Sorel, tous deux sont à 17%, ou encore à Besançon, où la tête de liste écologiste Anne Vigneault arrive carrément en tête des intentions de vote à 25%. On peut voir là la traduction concrète d'une forte progression des inquiétudes et des préoccupations des Français en matière de protection de l'environnement. On peut cependant se demander si ça va réellement se traduire dans les urnes en mars prochain, car le scrutin municipal offre très souvent une prime au sortant, et si le maire sortant a correctement géré sa ville, il n'y a aucune raison qu'il soit sanctionné. On constate d'ailleurs que dans la plupart de ces villes où les écologistes progressent fortement, le maire sortant ne se représente pas ou bien qu'il ne donne pas ou plus entière satisfaction. Mais plus globalement, on peut se demander si dans bien des cas, les électeurs oseront confier les clés d'une ville à des responsables écologistes qui, hormis quelques exceptions, n'ont jusqu'ici jamais réellement dirigé de municipalité. On observera donc comment évoluent ces intentions de vote à l'approche du scrutin et surtout, évidemment, ce que décideront in fine les électeurs dans l'isoloir les 15 et 22 mars prochains.
Merci Stéphane Robert. Au moins 15 catastrophes naturelles liées au changement climatique ont causé des destructions d'un coût de plus d'$1 milliard en 2019 et 7 d'entre elles d'au moins 10 milliards. C'est ce qui ressort d'une compilation effectuée par une ONG britannique, Christian Aid, dans une étude parue ce matin. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Maxime Combe, économiste et membre de l'association ATTAC. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérod. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors si l'on additionne les coûts occasionnés donc par ces catastrophes naturelles, on arrive à un total d'un peu plus de 80 milliards d'euros, un chiffre qui nous apparaît absolument considérable. Pour autant, Monsieur Combe, comment faut-il situer ce chiffre par rapport aux années précédentes? Est-on dans la moyenne ou bien a-t-il explosé?
Ce qu'il faut déjà voir, c'est que le coût des conséquences du changement climatique est important. Et après, ça dépend des méthodologies que vous allez utiliser et des catastrophes que vous allez calculer. Ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que les catastrophes climatiques ou engendrées par le réchauffement climatique étant plus intenses, plus fréquentes, avec des impacts plus importants, les coûts ont tendance à augmenter, et d'autant plus qu'ils sont de mieux en mieux pris en compte.
Maxime Combe, ce coût des catastrophes s'appuie essentiellement quand même sur les biens assurés, ce qui est rarement le cas dans les pays en développement. Ça reste fiable malgré cette comptabilité, j'allais dire, faite exclusivement par les assureurs?
C'est une difficulté majeure qui est cette façon-là d'essayer d'évaluer l'impact des catastrophes climatiques, c'est-à-dire qu'effectivement, en prenant les impacts qui sont mesurés par les assurances, vous avez simplement une prévalence plus grande de ces catastrophes et de leur impact, la mesure qui est faite dans les pays développés, les pays industrialisés, là où les biens sont assurés. Alors qu'effectivement, la majeure partie des catastrophes qui ont lieu dans les pays du Sud, dans les pays où il y a moins d'infrastructures qui sont assurées peuvent avoir des impacts bien plus importants, notamment en termes de victimes, en termes de destruction de l'économie vivrière locale qui permettent à des gens de survivre, de vivre, et qui n'ont plus ces outils-là ou ces capacités-là pour le post-catastrophe, alors que dans les pays du Nord, effectivement, ou les pays riches, il y a effectivement des moyens pour faire face aux conséquences des réchauffements climatiques, aux conséquences de ces catastrophes, et surtout, donc, du coup, pouvoir reconstruire et pouvoir prendre en compte également ceux qui sont victimes de ces catastrophes. Donc oui, il y a un biais là qui est relativement important.
Ces chiffres, des milliards de dollars de destruction, ce coût financier ne donne pas une vision globale non plus de l'étendue de ces catastrophes, notamment leur coût humain. On ne peut pas, on ne doit pas, selon vous, quantifier simplement de manière monétaire?
Bah, ce serait réducteur de quantifier les 1900 morts en Inde, les 1300 morts au Mozambique, et de leur donner une valeur monétaire pour essayer d'avoir une unité unique de comparaison et de mesure des catastrophes aux quatre coins de la planète. Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, quand on les agrège, quand on les additionne, même avec des évaluations monétaires qui peuvent être discutées et qui sont discutables, on voit effectivement l'ampleur des conséquences du réchauffement climatique, et on a là un outil à la fois de sensibilisation de l'opinion, mais aussi pour essayer de montrer clairement que la non-action en matière de lutte contre le réchauffement climatique aura des conséquences monétaires extrêmement fortes, parce que souvent on a un débat sur le réchauffement climatique qui tient à oui, mais agir aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique, ça coûte cher. Mais on voit que l'inaction et simplement subir les conséquences des dérèglements climatiques coûte extrêmement cher également.
Et vous le dites, alors c'est une piqûre de rappel pour les décideurs, hein, ça les amène, ça les pousse peut-être à faire rapidement leur transition écologique, mais ça fait tourner l'économie aussi, toutes ces catastrophes.
Oui, la reconstruction, effectivement, peut avoir un intérêt économique majeur. On sait que, par ailleurs, des intérêts capitalistiques ou autres peuvent se servir d'une catastrophe. C'est ce qu'a montré Naomi Klein dans un de ses livres, pour également se saisir d'une catastrophe pour essayer de évacuer, par exemple, les pauvres d'une zone qui va être mieux valorisée par la suite. Simplement, ce qu'il faut aussi prendre en compte et peut-être se rappeler, c'est qu'on a là une piqûre de rappel pour nous montrer combien aujourd'hui les négociations sur le réchauffement climatique patinent, parce qu'il existe un dispositif qui est en cours de négociation au sein de ces négociations, qui s'appelle le dispositif des pertes et dommages, qui devrait être le moyen pour notamment les pays historiquement les plus émetteurs de gaz à effet de serre de pourvoir aux moyens nécessaires pour faire face aux conséquences des dérèglements climatiques et donc aux pertes et dommages engendrés par ces catastrophes. Et ce dispositif-là, aujourd'hui, n'est pas réellement opérationnel, il est en tout cas pas financé. Donc effectivement, si on pouvait, à travers les calculs qui sont faits par cette ONG-là, remettre dans le débat public le fait qu'il faut effectivement débloquer de l'argent, pas simplement pour organiser la transition écologique et émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais également débloquer des moyens financiers permettant aux pays qui sont victimes des conséquences des dérèglements climatiques d'y faire face, ben peut-être que ce rapport aura été utile.
Dernière question, les effets indirects aussi, comme le fait d'avoir perdu son emploi, ne sont pas comptabilisés pour la Banque mondiale. Le coût réel des catastrophes climatiques serait 60% plus élevé que celui estimé par les réassureurs. Ça vous paraît être 60%, c'est beaucoup?
Mais c'est envisageable, effectivement. Après, il faut regarder précisément comment les calculs ont été faits. Mais quand vous prenez, par exemple, la catastrophe d'Idai au Mozambique, 1300 morts, les gens ont certainement perdu plus que simplement leur maison, mais leur outil de production, ce qui leur permet de vivre, ce qui leur permet de vivre au quotidien. Et donc là, vous avez effectivement des coûts qui ne cessent de s'accumuler. Après, il faut savoir comment on les valorise. Et puis, par ailleurs, toutes les catastrophes ont effectivement des coûts indirects relativement forts qui vont pas se mesurer simplement à un instant T, mais dans le temps. Et donc, du coup, on a plutôt intérêt à faire deux choses sur ces questions-là. C'est peut-être préciser et essayer de travailler toujours mieux, comme le font les institutions internationales, un certain nombre d'ONG, pour essayer de valoriser effectivement monétairement le coût des catastrophes climatiques, mais également de les prendre dans le temps. Mais ce qui est le plus urgent, là, c'est que tout un chacun, que les décideurs publics, les décideurs économiques se rendent compte que le coût de l'inaction climatique est vraiment très important et qu'il serait temps de réellement mettre en œuvre une politique de lutte contre le réchauffement climatique et de prise en charge collective de ces catastrophes qui soit important. Un mot juste pour dire, c'est que soit on laisse les gens individuellement faire face aux conséquences des réchauffements climatiques, soit on met en place des dispositifs de solidarité internationale, solidarité nationale, solidarité régionale. Et là, il faut effectivement faire un choix. Est-ce qu'on laisse le marché, donc le chacun pour soi et la règle de la jungle, régler l'après-catastrophe, ou est-ce qu'on met en place des dispositifs de solidarité qui vont permettre de reconstruire et de donner un avenir aux gens qui sont victimes de ces catastrophes climatiques.
Merci Maxime Combes, économiste, je le rappelle, et membre de l'association Attac, d'avoir répondu à notre invitation. J'en profite également pour citer le titre de l'un de vos derniers ouvrages, Sortons de l'âge fossile, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Et puis merci également à Véronique Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Maussade sur la plupart des régions, à l'exception du midi méditerranéen et des Pyrénées. Le département de la Charente-Maritime a été placé en vigilance orange crue. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Sophie Delpont pour le prochain journal de la rédaction.